RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le tout s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
L'After, jusqu'à 23h, François Pinet.
Bienvenue à tous dans l'After, très heureux de vous accueillir pour ce début de semaine, 21h, 23h, vous êtes peut-être en vacances, peut-être sur la route ou au travail et vous nous écoutez et c'est tant mieux, vous pouvez réagir, vous le savez, sur le 32-16. On lira aussi vos messages sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio autour de la table avec nous, comme hier soir, Jonathan Macardy à ma gauche. Salut Jonathan.
Salut François. Salut.
Tu as laissé tomber la chemise, pour ceux qui nous regardent sur BFM Sport, ils le voient, mais pour ceux qui sont à la radio, ils ne le voient pas. Aujourd'hui, c'est plus sobre.
Oui, hein,
un t-shirt blanc, voilà.
Toujours sexy.
Mais toujours sexy.
Oui, je sais, mais c'est pour ça.
Samy Traoré est avec nous également. Salut Samy.
Salut à tous.
Ancien défenseur de Nice, du PSG, de Créteil également. Une belle petite carrière quand même. Et aujourd'hui, défenseur de l'After.
Effectivement.
Jonathan, tu nous parleras dans un instant de Didier Deschamps et de ses choix à venir pour l'équipe de France. Est-ce qu'il va y avoir du renouvellement malgré le titre de champion du monde? Samy Traoré, toi tu as choisi de nous parler de l'AS Saint-Etienne. On sera d'ailleurs en direct avec Timothée Mémon dans l'After pour prendre des nouvelles de l'AS Saint-Etienne. Et on commence, je vous l'ai dit, notre tour des clubs dans l'After avec tous les soirs un focus sur un ou deux clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, honneur au Stade Rennais, le président Olivier Létang sera avec nous dans un instant. On parlera aussi du Racing Club de Strasbourg avec Thierry Loret, l'entraîneur du club alsacien. Et puis à 22h, on viendra sur la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Atlético Madrid. Vous avez vu le match?
Oui. Oui.
Voilà, 3 buts à 2 pour le PSG. Avec cette question, est-ce que le 3-5-2 que met en place Thomas Tuchel depuis le début de la préparation n'est pas le meilleur système pour le Paris Saint-Germain? Les infos Mercato, bien sûr, ça sera vers 22h30. Et on vous attend donc au 32-16 pour réagir cette semaine. Nous vous offrons dans l'After un jeu, et pas n'importe lequel, pour les plus anciens, vous le connaissez peut-être, c'est le Subutéo, voilà, le jeu Subutéo que je vous montre si vous nous regardez à la télé. C'est pas n'importe lequel parce que c'est la réédition de la finale France-Brésil 98.
Magnifique.
Tout simplement. Vous savez comment ça se joue?
Il faut se casser les doigts dessus.
Voilà. T'as déjà joué, Samy?
Un petit peu.
Voilà. Ceux qui connaissent évidemment le Subutéo, c'est assez sympa. Et pour remporter donc la boîte Subutéo, il y en a une à remporter. Tirage au sort en fin de semaine. Il faut envoyer After au 7-32-16. L'After donc au 7-32-16. Tout de suite, on va faire un détour par Brest, parce qu'il y a de la Ligue 2 ce soir. C'est la première journée, c'est le dernier match entre Brest et le Football Club de Metz. C'est Xavier Grimaud qui est en direct du stade Francis Leblé. Salut Xavier.
Salut messieurs, rebonsoir à tous. 18 minutes de jeu à Brest et ça se passe bien pour Frédéric Antonetti pour sa première, puisque Metz mène un but à 0. Le buteur c'est Ibrahima Niane sur corner à la 13e minute. Attention, il y a la frappe, la deuxième frappe à Messine, ce sera un nouveau corner pour les Messins. 1-0 donc pour les Lorrains.
On fera le point évidemment avec toi tout au long de cet after sur ce match entre Brest et le Football Club de Metz, mais on débute l'after donc avec notre tour des clubs de Ligue 1 et honneur au Stade Rennais avec Olivier Létang, le président du club breton, qui est avec nous en direct dans l'after. Bonsoir Olivier Létang.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous pour ce tour des clubs et pour cette première donc dans l'after à 11 jours de la reprise. On va d'abord dire que vous avez gagné 4 buts à 1 contre Everton, c'était samedi dernier. C'était le dernier match de préparation en date pour le Stade Rennais. Il y a eu des défaites face à Anderlecht et Salzbourg, mais c'était un petit avant-goût de cette saison à venir avec la Coupe d'Europe pour le Stade Rennais qui jouera la Ligue Europa.
Oui, c'était une question.
Oui, c'est pas une question, mais c'est pour vous dire qu'en gros, c'était plutôt satisfaisant. En tout cas, la victoire contre Everton, ça fait du bien avant de commencer la saison.
Ouais, vous savez, sur les matchs amicaux, je vais utiliser un poncif, mais les résultats ne sont pas le plus important. Ce qui était important sur le match de samedi contre Everton et intéressant, ça a été le contenu de ce match où l'équipe, effectivement, après une grosse préparation qui a eu lieu en Autriche, une grosse charge de travail qui a été mise en place par le staff, a répondu présent et aujourd'hui les automatismes sont présents, donc c'est plutôt très positif. On va continuer notre préparation et vous parliez effectivement d'Europa League, mais pour l'instant, moi je dis à tout le monde en interne que je ne veux pas entendre parler d'Europa League. On est concentré uniquement sur la reprise du championnat parce que le premier match d'Europa League aura lieu uniquement le 20 septembre, mais on aura 5 matchs de championnat de Ligue 1 et si on pense qu'on est une équipe de compétition européenne et qu'on sous-estime la Ligue 1, on aura de grandes difficultés. Donc on est aujourd'hui, tout le monde est concerné dans le club par l'échéance du 11 août avec ce déplacement à Lille.
Mais justement, on le voit sur le tableau, hein, sur BFM Sport. Premier match à Lille, samedi 11 août. Cinquième l'an passé, le Stade Rennais. Je suis désolé, moi je vais vous parler un petit peu d'Europa League. On sait que l'Europe prend de l'énergie au club qui la dispute. Est-ce que aujourd'hui, on parlera un peu plus en détail du mercato dans un instant, mais est-ce que aujourd'hui vous estimez que vous avez une équipe suffisamment armée justement pour jouer à la fois le championnat et bien figurer en Coupe d'Europe?
Notre objectif, c'est de construire un groupe qui soit armé pour jouer sur toutes les compétitions. C'est une chance de jouer une compétition européenne. Nous, on est ravis de participer à cette compétition, mais comme je le disais précédemment, on peut pas se permettre d'oublier notre pain quotidien, la compétition domestique qu'est la Ligue 1. C'est pour ça que, pour l'instant, on est concentré uniquement sur le 11 août, le déplacement à Lille. Et ensuite, on aura 4 autres rencontres avant d'entamer les phases de poule d'Europa League, donc c'est vraiment une concentration là-dessus. Et notre objectif, c'est de construire et d'avoir le meilleur objectif possible pour être compétitif dans les 4 compétitions que sont la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et l'Europa League.
Oui, mais bonsoir Olivier.
Jonathan Macardy.
Juste par rapport à ce que vous me dites, rassurez-nous, la Ligue Europa, vous allez bien la jouer à fond.
Ah, on est entièrement d'accord. C'est un privilège que de jouer une compétition européenne. Tout le club est allé chercher cette compétition. Il est hors de question de ne pas jouer ces matchs-là. Vous savez, on part du principe qu'on ne sait jamais quel match on va gagner. Donc, on doit tous les jouer pour les gagner. Ça, c'est quelque chose de très important. Et par rapport à l'Europa League, je l'avais déjà dit au soir de la dernière journée du championnat, le 19 mai dernier, quand on a reçu Montpellier, j'avais dit, mais vous savez, on va jouer l'Europa League. Moi, je ne veux pas entendre parler de fatigue. La fatigue, ça n'existe pas. Elle est uniquement dans les têtes parfois. Et notre objectif, encore une fois, ça va être de jouer tous les matchs pour être performant et essayer de les gagner.
Alors, dans le détail du mercato, parce qu'on va évidemment vous interroger là-dessus, on va d'abord parler des départs, parce qu'il y en a un qui est assez récent et qui a marqué quand même les esprits. C'est celui de Joris Néagnon, le défenseur qui est parti à Séville pour 15 millions d'euros. Est-ce que c'est une déception pour vous de perdre un joueur qui n'a disputé finalement que 2 saisons en pro chez vous, au Stade Rennais?
On avait défini en fin de saison dernière avec Sabri, Lamouchi, un certain nombre de joueurs qui seraient susceptibles de nous quitter, parce que c'est bien le club qui décide, hein, et c'est moi en tant que président qui accepte qu'un joueur nous quitte ou ne nous quitte pas. Joris faisait partie de cela parce que ça faisait 4 ans qu'il était déjà au Stade Rennais, parce qu'il avait aussi cette envie de partir. Donc on a ouvert la porte. Il y a 2 autres joueurs qui ont une possibilité de partir cette saison.
Qui sont les 2 autres joueurs qui peuvent partir?
J'en ai déjà parlé, hein, Rami Ben Sebaini, puisque j'avais donné ma parole il y a quelques mois déjà, et Mexer, parce qu'il lui reste une année de contrat. Mais comme je le disais la semaine dernière dans le cadre de la présentation de Damien Da Silva, si Rami Ben Sebaini reste chez nous, nous serons très contents, très heureux, mais à partir du moment où j'ai donné ma parole, effectivement, un respect, et si les conditions sont réunies, donc si un club arrive avec l'enveloppe que nous souhaitons à ce moment-là, il aura la possibilité de partir.
Et vous souhaitez combien pour Rami Ben Sebaini?
Je suis désolé, mais je ne parle jamais de chiffres. Vous avez évoqué un chiffre également pour Joris.
Une fourchette,
vous le confirmez.
Non, oui, parce que Olivier, on était surpris des chiffres qui ont été annoncés pour Joris Néagnon. 15 millions, ça me semble quand même extrêmement faible pour un joueur avec un tel potentiel.
Sur le marché, quelles étaient les possibilités? C'est vous qui évoquez 15 millions. Il y a également des bonus supplémentaires. Il y a également un intéressement. Aujourd'hui, compte tenu encore une fois du marché, sans vous donner les chiffres et sans rentrer dans les détails, je peux vous assurer que les intérêts du Stade Rennais ont été préservés.
Est-ce que Olivier Létang, du coup, avec ce départ de Joris Néagnon, la porte est fermée pour des joueurs un peu au même profil, hein, qui sont jeunes, comme Léa Sliki, Ismaël Assar, Benjamin Bourigeaud ou encore Jérémy Gelin.
Je vous ai donné de façon très transparente la liste assez courte des joueurs
d'accord,
qui étaient susceptibles de partir pour les autres, et je l'ai dit aussi,
la porte est fermée.
et je l'ai dit à leurs agents, la porte est fermée.
D'accord.
Notre projet, il est principalement et d'abord sportif, c'est ça qui m'intéresse, d'avoir la meilleure équipe possible, la plus performante possible. Donc pour les autres joueurs, le moment n'est pas venu pour eux de nous quitter. Benjamin et Ismaëla sont arrivés il y a simplement une année.
Oui.
On a réalisé une bonne saison. Notre objectif, encore une fois, c'est d'être performant sur la saison qui arrive, en fonction de nos moyens et avec beaucoup d'humilité. Donc ce sont des joueurs qui resteront avec nous.
21h10 hein, sur RMC, on est en direct avec Olivier Létang, président du Stade Rennais, et Samy Traoré a une question à vous poser.
Bonsoir monsieur Létang, Olivier.
Bonsoir Samy.
Ça va?
C'est ça la question de Samy Traoré.
Bah, déjà premièrement c'est la plus importante.
Si tout va, on s'est demandé si ça va.
C'est important déjà.
C'est la politesse.
Déjà c'est primordial.
Là c'est parfait Samy.
Et je voulais savoir puisque tu parlais de effectivement d'avoir un groupe aux ambitions quand même de pour pouvoir jouer sur les tableaux. Comment vous avez pas réussi à garder Wahbi Khazri? C'est ça qui m'interpelle un petit peu.
Alors sur Wahbi, la décision était la nôtre, hein, de façon très claire, parce que Wahbi souhaitait rester. Après, il y a des considérations économiques, là aussi, sans rentrer dans les détails.
Ouais, bien sûr.
Mais on s'était fixé effectivement un cadre que j'ai souhaité que l'on respecte par rapport à notre budget, par rapport à, et tu le sais bien,
ouais,
Samy,
compris,
par rapport à ce qui se passe, et des équilibres de vestiaire.
Ouais, bien sûr.
Ça aussi, c'est quelque chose de très important.
Ouais.
Donc on a souhaité effectivement rester là-dessus. Donc c'est nous qui avions la main parce que Wahbi était, je peux vous assurer, qu'il voulait vraiment rester. Ça a été une rencontre fantastique au niveau humain avec Wahbi parce que c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Mmh. Après il a fait un autre choix qui a été plus économique avec son départ à Saint-Étienne. Mais je parle souvent moi de l'institution et de protéger l'institution et le club. Donc c'était important de respecter ce cadre.
C'est vrai.
Alors on a parlé des départs, on va parler des arrivées. D'abord une question sur une arrivée qui aurait pu se faire et qui finalement n'a pas eu lieu, c'est celle de Jimmy Briand. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi Jimmy Briand aurait refusé de venir au Stade Rennais?
Alors, a refusé ou aurait refusé?
C'est la question que je vous pose.
Il me semble que Jimmy Briand, qui est un très bon joueur, hein, est toujours sous contrat avec un club. À l'instant où on se parle, avec l'En Avant Guingamp. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour les autres clubs et pour les contrats. On n'a pas, nous, échangé du tout avec l'En Avant Guingamp sur la possibilité de recruter Jimmy. Et de ce que je sais, en tout cas, puisque tous les échanges passent à un moment donné par moi, j'ai pas eu de retour comme quoi Jimmy Briand avait refusé de venir au Stade Rennais, mais en tout cas il est alors on se parle toujours un joueur de l'En Avant Guingamp et ça il faut le respecter.
C'est un joueur qui vous intéresse quand même?
C'est un bon joueur et nous vous savez dans ce que l'on fait nous il y a les joueurs mais il y a aussi l'humain. Et moi, je veux tout savoir sur les gens qui nous rejoignent parce que on parlait tout à l'heure d'équilibre de vestiaire et un recrutement, c'est un puzzle technique, tactique, physique et psychologique et mental. Et on a besoin effectivement d'avoir des gens qui soient parfaitement en adéquation avec notre culture, l'identité, ce que l'on veut mettre en place, le niveau d'exigence et le professionnalisme. Et effectivement, Jimmy, d'un point de vue humain, est aussi quelqu'un de remarquable que je connaissais avant, bien évidemment. Donc c'est un bon joueur et les bons joueurs nous intéressent toujours. Mais d'accord, comme je vous l'ai dit, il est sous contrat avec l'En Avant de Guingamp.
Alors parmi les arrivées, celles qui sont officielles, évidemment, l'arrivée de Clément Grenier qui a signé pour 3 saisons. Ça ressemble, on est d'accord ici, je pense, avec Jonathan et Samy, à plutôt une bonne pioche.
C'est une très bonne pioche. C'est une très bonne pioche, c'est une très bonne idée.
Et il y a aussi l'attaquant Sebiatcheux, 22 ans, qui a marqué 17 buts avec Reims la saison dernière.
Non, mais de toute façon, avec Monsieur Létang à la tête de Rennes, il faut s'attendre à de très bonnes pioches, je vous préviens.
Il y a également le défenseur Benjamin Da Silva, on en a un petit peu parlé, arrivé libre de Caen. Damien Da Silva, bien sûr.
C'est un des très bons défenseurs de notre championnat. C'est une des valeurs sûres en défense centrale. Et outre le fait qu'il soit très bon défensivement, c'est toujours 3-4 buts par saison de la tête.
Ouais, c'est solide.
C'est un super recrutement. Ouais.
Et Olivier Létang, vous avez aussi recruté donc l'hiver dernier pour 10 millions d'euros quand même un certain Rafik Guitane qui a été laissé ensuite 6 mois à la disposition du Havre, qui a participé cet été à l'Euro des moins de 19 ans avec l'équipe de France, qui a plutôt brillé lors de cet Euro. Ça c'est un pari pour vous? Est-ce qu'il va être disponible immédiatement? Est-ce qu'il va tout de suite flamber? Parce qu'on en attend beaucoup finalement. On a vu faire de très très belles choses avec le Havre.
Alors, plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Un, le prix. Je ne parle jamais de prix. Par contre, je m'inscris en faux par rapport aux chiffres que vous avez évoqués. On l'a pas acheté 10 millions d'euros. On l'a acheté moins.
Beaucoup
ça, c'est
moins.
Le premier point. Oui, sensiblement. D'accord. Moins. Ouais. Deuxièmement, sur le recrutement, vous savez, on parle de joueurs. Moi, je vais vous parler de clubs, d'institutions, d'équipes et d'assemblage. Effectivement, on est très content des garçons qui nous ont rejoints. Vous en avez oublié un certain nombre,
mais
On est allé chercher des jeunes joueurs comme Jordan Sibathieu. Vous l'avez dit, 17 buts, 7 passes décisives avec le Stade de Reims. Garçon que je connais très bien puisque j'ai une longue histoire avec le Stade de Reims. On peut aussi parler de Romain Del Castillo, 22 ans également. Et on a fait un mix entre des jeunes joueurs et des joueurs plus expérimentés, parce que vous avez évoqué Clément Grenier, nous sommes très contents qu'il nous ait rejoint. Ça a été un combat, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Andamant Guingamp. Je vais vous donner une statistique. Le dernier joueur qui avait été transféré de Guingamp vers Rennes, il s'appelle Gilles Bernard, et c'était en 1984. donc le combat était pas simple. Il y a eu également Damien Da Silva, vous avez évoqué effectivement son profil, défenseur solide, grande expérience de Ligue 1, état d'esprit fantastique. Jacob Johansson également, qui sera opérationnel d'ici un mois et demi, donc avec une grosse expérience, et le buteur avec la Suède contre l'Italie pour la qualification en Coupe du Monde. Donc on a un mix, effectivement, en plus de ces 5 joueurs qui nous ont rejoints les dernières semaines. On avait transféré Rafik au mois de janvier dernier. Rafik, c'est quelqu'un qui a un profil différent, mais Rafik n'a aucune pression aujourd'hui chez nous parce que c'est un jeune joueur, c'est encore un jeune joueur, et on veut le couver, on veut le protéger, on veut pas l'exposer. Et le staff va faire un gros travail sur lui pour qu'il puisse effectivement démontrer ses qualités. Et moi, je suis toujours très attentif et très prudent quand on dit attention, c'est une pépite. J'ai vu beaucoup d'articles comme ça. Oui, c'est un garçon qui a des qualités. Mais prenons le temps avec les jeunes joueurs. Encore, ouais. Soyons patients, soyons tranquilles. Il a des grandes qualités. Vous savez, entre un potentiel et ensuite la concrétisation de ce potentiel, il faut faire attention. Donc avec le staff, on échange beaucoup, et avec Rafik, qui est venu passer quelques jours chez nous pendant l'intersaison avant de partir avec l'équipe de France. Donc encore une fois, il ne faut pas le brûler avant qu'il soit sur le devant de la scène. Donc pas de pression, pas de stress, et encore une fois, on est ravis aussi de l'avoir avec nous, parce qu'il nous semble que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité.
Olivier Létang, un dernier mot sur le mercato, sur Piršić, qui était en fin de contrat, qui s'apprêtait à quitter le Stade Rennais. Où en est sa situation? Est-ce qu'il va finalement rester?
Alors, Sanine est aujourd'hui un garçon, on est le 30 juillet, qui n'a toujours pas signé dans un club. Je m'étais exprimé, je pense que si vous pouvez facilement retrouver effectivement les enregistrements, où j'avais dit, voilà, Sanine avait un accord avec le club avant que je n'arrive. Il avait même signé un engagement, écrit un contrat. Et moi, vous savez, j'ai beaucoup parlé, y compris lors de notre entretien, de club, d'institution, de culture, de valeur. Et Sanine a décidé effectivement de ne pas honorer son engagement, ce qui m'a un peu chagriné, parce que je parlais vis-à-vis de Rami Ben Sebaini de respect de la parole. Donc là, on est allé un petit peu plus loin. Donc c'est un bon joueur, mais il faut absolument protéger le club et l'institution. Et la porte n'est pas définitivement fermée, mais il y a un certain nombre de choses, effectivement, qu'il faudrait valider, qu'il faut valider pour qu'il puisse nous rejoindre. Parce que, encore une fois, je tiens à ce que le club soit le plus fort et soit protégé.
Olivier Létang, une toute dernière question, mais très rapidement, je vous demande une réponse courte. Vous connaissez la musique. L'objectif du Stade Rennais, quand on est cinquième, derrière les grosses écuries, PSG, Monaco, Lyon, Marseille, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus en Ligue 1?
Je vais pas vous faire de langue de bois.
J'espère.
Très clair, nos objectifs en arrivant au mois de novembre, vous savez, je n'ai fait aucune promesse. Il y avait beaucoup de Stade Rennais bashing, et j'avais entendu beaucoup parler de peur de la relégation. Donc j'avais dit non, pas d'objectif sportif. Nous, on va beaucoup travailler. Je veux créer un club fort, très professionnel, avec beaucoup d'exigences, beaucoup de travail et des gens qui ont des connexions positives. Et je souhaitais que tous les amoureux, tous les passionnés du Stade Rennais soient fiers de supporter cette équipe. Je peux vous assurer que ce que j'ai vu lors du dernier match de championnat contre Montpellier, il y avait une atmosphère dans la ville, une atmosphère dans le stade qui était fantastique. Parce que je dis souvent aux joueurs, il faut donner aux spectateurs. Donc pour revenir à l'objectif, aux objectifs de l'année prochaine, vous savez, vous avez 4 mastodontes. Le Paris Saint-Germain est indéboulonnable et sera champion de France. Vous avez l'AS Monaco, vous avez l'Olympique de Marseille, vous avez l'Olympique Lyonnais. Et puis après, il y a un groupe avec des clubs qui sont plus puissants que nous économiquement. Vous avez Lille, vous avez Bordeaux, vous avez Saint-Étienne, vous avez Nice. Et ben l'objectif, encore une fois, c'est d'être performant dans la durée. On l'a fait sur une saison. Ça a été 7 mois absolument fantastiques d'un point de vue sportif, d'un point de vue humain, où on a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le club en termes de culture de travail et d'état d'esprit. D'accord. Le plus dur, et Samy le connaît, le sait bien, le plus dur, c'est de durer au haut niveau.
Ouais.
Le plus dur, c'est de confirmer. Donc on est là et on lâche pas. Vous savez, on est en train de continuer à construire une organisation très forte, très solide, très professionnelle.
D'accord.
Pour avoir des résultats dans la durée.
Merci.
Voilà. Donc moi, je ne promets rien, mais l'objectif, ça va être d'être le plus performant possible dans les 4 compétitions qu'on a évoquées.
Heureusement que j'avais demandé une réponse courte. Merci beaucoup.
Au moins, j'espère qu'elle était claire, au moins, non?
Très clair.
Merci beaucoup, Olivier Létang, d'être passé par l'After. Et bonne saison. Bon courage, pour le début de la saison. On rappelle, ça débutera à Lille pour le Stade Rennais le 11 août prochain. Après le Stade Rennais, un deuxième club dans l'After dont on va s'intéresser maintenant. C'est le Racing Club de Strasbourg avec son entraîneur Thierry Loret qui nous a rejoint en direct. Bonjour Thierry Loret.
Bonsoir messieurs.
Merci beaucoup d'être avec nous dans l'After. Alors Strasbourg qui reste sur un prolifique 3 partout en préparation face à Reims. Il y a un prochain match prévu contre Fribourg ce vendredi. Le début du championnat, ça sera le dimanche 12 août pour vous, Thierry Loret et votre équipe à Bordeaux. Comment se prépare cette saison? Est-ce que pour l'instant vous êtes satisfait?
Oui, par rapport à ce qu'on envisageait, on est dans les clous. Après, on sait que l'équipe n'est pas au point actuellement. Elle le sera peut-être pas complètement non plus pour la reprise du championnat, ce qui, somme toute, est logique, du fait qu'on a recruté quelques joueurs, qu'on a des blessés parmi ces joueurs, voire des blessés dans l'effectif de l'an passé qui récupèrent progressivement. Donc forcément, on savait que ça prendrait un petit peu de temps. Mais on n'a aucune inquiétude par rapport au temps que ça va prendre, justement, puisque les garçons commencent à revenir progressivement dans l'équipe. Et même s'ils ne sont pas à 100% sur la reprise du championnat, ils sont dans l'esprit. Et collectivement, j'espère qu'on saura justement effacer le petit déficit qu'on pourra avoir individuellement.
Est-ce que vous êtes pour l'instant satisfait du mercato de votre équipe? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le mercato alsacien, il y a eu notamment le recrutement d'un gardien, Matt Sells, qui vient de Newcastle, qui jouait à Anderlecht la saison dernière, qui devrait être titulaire, c'est ça Thierry Loret?
Bah disons qu'on l'a recruté pour ça, après.
Vous savez, vous d'ailleurs, vous avez une expérience des gardiens la saison dernière avec plusieurs blessures et des changements de gardiens qui ont dû effectivement changer vos plans, sans doute.
Oui et non, parce qu'en fait, il faut aussi savoir que gardien de but, c'est un poste qui est soumis à la concurrence comme un poste de champ, voilà, tout simplement. Et donc, aux gens d'être performants, quoi.
Autre recrue, Adrien Thomasson, qui était libre, lui, en provenance de Nantes, qui a priori quand même devrait être un titulaire. Très bien, nous dit Jonathan McCarthy.
C'est une super idée, c'est un super bon joueur.
Moi, je le connais de longue date, puisque j'avais voulu le faire venir à l'époque où il était encore sous contrat à Evian. J'ai voulu le faire venir au Gazélec, ça s'était pas fait, mais bon, le contact avait été établi, et bon, je suis très content de l'arrivée d'Adrien.
Alors, pour renforcer la défense, il y a le défenseur serbe qui était à la Gantoise, Stefan Mitrovic, 28 ans, voilà, qui avait été recalé à
Saint-Étienne,
à la visite médicale. Oui. Vous, ça vous a pas fait peur?
Tous les voyants sont ouverts. Entre-temps, il a été opéré. Donc,
oui, c'est vrai. Ça aide.
Ça va mieux, quoi. Ça va mieux.
Puis Saint-Etienne, on en avait besoin tout de suite aussi.
On est conscient du fait que s'il n'avait pas été blessé, c'était un joueur qui était d'un niveau supérieur. On ne pouvait pas prétendre d'aller chercher un joueur pareil, voilà, pour être honnête. Et donc, nous, on s'est positionné sur ce dossier. C'est un garçon qui est adorable, qui a beaucoup d'expérience. Je l'avais dit, il a joué à Champions League, il était champion de Belgique. Enfin bon, il a joué avec Matt Sells aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de bien. C'est un garçon qui, s'il n'avait pas été blessé, aurait certainement été dans le groupe de la Serbie pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pour nous un très bon joueur, qui nous a apporté toute l'expérience voulue. Quoi.
Et il remplace Bakary Koné a priori quand même dans l'effectif qui lui a quitté Strasbourg. Il y a aussi des joueurs de Ligue 2 qui ont plutôt brillé la saison dernière, qui ont rejoint le club de Strasbourg. On pense à Ludovic Ajorc, qui est l'attaquant de Clermont, qui a marqué quand même 14 buts la saison dernière, et un milieu brestois, Ibrahima Sissoko. Avec tout ça, est-ce que Thierry Loret, vous êtes satisfait du mercato de Strasbourg? Est-ce qu'on peut s'arrêter là?
Non,
vous êtes satisfait, on ne s'arrête pas là.
Marqué l'air là, ils attendent encore 3-4 renforts.
je suis satisfait, c'est une chose, et on va s'arrêter là, c'en est une autre.
Satisfait pour l'instant. C'est encore léger, Thierry, vous ne me contredirez pas, mais devant, en termes d'effectifs, vous avez peut-être besoin de renforts pour notamment
l'attaque. Non, mais il est une notoriété publique qu'on cherche un défenseur axial, c'est clair.
Titulaire ou de complément?
Ah non, non, nous, un garçon qui devrait être titulaire, après, encore une fois, c'est la concurrence qui dictera les choix, mais et un attaquant aussi, ouais, bien sûr, voilà, au milieu on est paré, mais c'est vrai qu'il nous faut un défenseur axial, si possible droitier, on cherche plutôt quelqu'un qui joue axe droit, et un attaquant, alors ce serait bien d'avoir un attaquant plutôt multicarte, je dirais, voilà, donc un profil un peu comme on avait trouvé l'an dernier avec un garçon comme Martin Terrier, par exemple, ça c'était très très bien, quoi, un garçon qui peut jouer à différents postes, qui a de la qualité, voilà, donc c'est un peu ce profil de joueur qu'on recherche. Après, si ça n'est pas possible, on s'adaptera, c'est ce qu'on a toujours fait. Et puis après, donc ça c'est vraiment deux postes qui sont importants pour nous. Et puis après, on cherchera certainement à compléter l'effectif au vu des matchs de préparation qu'on aura fait, parce que vous oubliez de préciser une petite chose par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est qu'on a un centre de formation qui refonctionne normalement, et on a des garçons qui sont intéressants dans ce centre de formation.
D'accord. Vous espérez quoi l'an dernier, Thierry Loret? Vous avez terminé à une 15e place, vous avez bien commencé la saison, ça a été plus compliqué lors des matchs retour, il y a eu quelques exploits quand même, notamment celui d'étape contre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous espérez pour cette saison?
On espère faire mieux, pour être honnête, voilà, mais on sait très bien que notre ambition pour ce championnat, c'est le maintien. J'ai entendu des gens parler juste avant moi, eux, ils peuvent rêver d'être derrière les quatre gros du championnat, nous, on n'en rêve pas, voilà, donc on sait que ce sera très compliqué, encore une fois, mais malgré tout, on veut faire mieux que la saison passée, donc voilà, terminer dans le début de la deuxième partie du tableau, je trouve que c'est déjà, ce sera pas une mince affaire pour nous, quoi. Donc voilà, on a une ambition raisonnable. Ce qu'on veut avant tout, c'est construire une équipe qui puisse évoluer plusieurs saisons, voilà, ensemble. Donc on veut pas avoir à changer l'effectif tous les ans. Et ensuite, on veut surtout pérenniser le club dans ce championnat de Ligue 1. Voilà, c'est surtout ça qui est important à nos yeux. Tout le monde attend ça. C'est vrai qu'on a des supporters, on a beaucoup d'abonnements, on a des dirigeants qui travaillent très très bien. Et donc pour ça, on se doit de maintenir le club en Ligue 1dans les années qui viennent. Voilà. Donc et dans les années qui viennent, ça commence par la saison qui arrive. Voilà, tout simplement.
Thierry, bonsoir. Écoutez, bon, déjà.
Jonathan Macard.
Oui, je vous remercie d'être là ce soir. C'est vrai que Thierry est quand même assez sympa parce qu'on l'a souvent eu cette saison pour débriefer les matchs. Et à chaque fois, vous faites preuve d'une grande lucidité. Donc, je vais vous poser une question très, très franche. C'est, vous parlez de pérennité, de stabiliser le club en Ligue 1. Alors, on sait que Strasbourg, c'est un club qui a quand même des atouts assez extraordinaires. Le public, c'est une histoire. Il y a un bassin de population qui est intéressant autour. Et surtout, il y a des gens qui travaillent bien depuis quelques années, notamment il y a Thierry qui fait un super boulot à la tête de l'équipe première, Marc Heller qui fait venir les bons joueurs. Vous avez parlé de moyen terme quand vous parlez d'installer le club en Ligue 1. Ma question, c'est est-ce que vous voyez vous inscrire dans ce projet sur moyen terme à Strasbourg? Est-ce que vous voyez vous projeter sur ce 3-4 saisons?
Vous savez bien que dans le football, se projeter à 3-4 saisons, c'est quelque chose de très aléatoire.
Mais dans le coin de votre tête, est-ce que vous y pensez?
Disons que ça ne me dérangerait absolument pas. Voilà. si je réponds à votre question. Ça ne me dérangerait pas. Moi, il me reste un an de contrat et on aura largement le temps. On aura largement le temps d'en reparler quand la saison aura repris et que l'effectif sera établi et qu'on aura commencé le championnat. Moi, il y a aucune urgence, sincèrement, à ce niveau-là. Je sais dans quelles conditions les dirigeants me permettent de travailler. J'en suis ravi pour l'instant. Donc voilà. Après, je vais pas vous dire oui, je veux rester à 100% ou non, je veux partir. C'est comme pour les joueurs, c'est comme pour un peu tout le monde. Il y a des négociations à mener. Ce qui est sûr, c'est que je m'intègre totalement depuis 2 ans dans le projet strasbourgeois et je suis ravi d'être ici en ce moment. Voilà.
D'accord.
Ça c'est une certitude. Hein.
Merci beaucoup. Merci pour votre franchise, Thierry Loret. Bientôt dans l'after et sur RMC sans doute. Merci d'être passé dans l'after et bonne chance, bon courage pour cette saison avec le Racing Club de Strasbourg. On revient dans un instant, messieurs, Sammy Traoré. Jonathan McCarty. Vous restez bien sûr. Et d'ailleurs, ce sera l'avis tranché, très tranché de Sammy Traoré. Dans un instant, on parlera de Saint-Etienne et on sera en direct avec Timothée Mémon à Saint-Etienne pour savoir comment ça se passe avec Jean-Louis Gasset et ses dirigeants. À tout de suite sur RMC et sur BFM Sport.
RMC, le super football show, l'afterfoot, François Pinet.
Et on est de retour dans l'after jusqu'à 23h, les 21h31 sur RMC et sur BFM Sport à la télé. Pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle 32-16 pour réagir à l'émission. Et puis le hashtag RMC Live sur Twitter ou encore sur l'appli RMC Direct Studio. Dans un instant, ça sera l'avis tranché de Sammy Traoré qui a choisi de nous parler de Saint-Etienne. Mais on va faire un petit détour par Brest avec Brest-Metz. C'est le dernier match de la première journée de Ligue 2, Xavier Grimaud. Et pour l'instant, ça se passe très bien pour les Lorrains.
Ouais, et c'est la pause. 1-0 pour le FC Metz à la mi-temps. Effectivement, le buteur, c'est Ibrahim Niane à la 13e minute. Et les Messins qui font assez largement la meilleure impression. Il n'y a pas grand-chose offensivement côté brestois. Seulement 3 frappes. La plus dangereuse, c'est une frappe lointaine de Bello, l'arrière-droit qui est passé à côté. Début d'Oukidja, alors que Metz a eu deux grosses occasions avant la pause, notamment un bon centre de Gakpa, la recrue pour Boulaya qui s'est jeté et le ballon est passé juste à côté des buts de l'Arseneur. Donc pour l'instant, première mi-temps réussie pour Frédéric Antonetti et les Messins. 1-0 pour les Lorrains.
Ah oui, Frédéric Antonetti qui est, pour ceux qui sortent peut-être de vacances, qui reviennent de vacances, le nouvel entraîneur du football club de Metz.
C'est curieux que Niane il soit resté à Metz.
Ouais, alors c'est pas encore fini le mercato. Ouais. Hein.
Il y a des clubs qui prennent bien pas mal de clubs de Ligue 1.
Même pour le FC Metz, la saison dernière a été difficile avec des départs au dernier moment du mercato. Donc il faudra surveiller ça, notamment aussi le cas de Mathieu Dossévi.
Oui, c'est vrai.
Qui est toujours là. Tout de suite, c'est Sammy Traoré et son avis tranché. Jingle.
Quand on a une équipe, c'est comme avoir un orchestre. Tous les joueurs jouent leur partition et il y a un chef d'orchestre qui est l'entraîneur.
Quel poète.
C'est vrai en même temps. Hein.
Ah oui,
que dire d'autre?
Oui, c'est beau.
Alors, tu as envie de nous parler aujourd'hui, Samy, de Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne et Jean-Louis Gasset, plus précisément, l'entraîneur. On sera dans un instant avec Timothée Mémon qui va nous donner des nouvelles et des infos sur ce qui s'est passé entre l'entraîneur Jean-Louis Gasset et ses dirigeants. On sait qu'il a poussé un petit coup de gueule sur le mercato. On verra si ça a eu des effets. Sûrement. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, sur Saint-Etienne? Que visiblement, ils peuvent viser haut?
Ben, tout va dépendre un peu des cadors du championnat, bien sûr. Mais je pense que s'il y a une équipe qui n'est pas au rendez-vous, pourquoi pas? Pourquoi pas Saint-Etienne qui peut s'immiscer un peu dans ses places européennes, voire Ligue des Champions. Il y a la tour préliminaire, la troisième place. Après, quand je vois l'effectif un peu de Saint-Etienne cette saison, je vais vous donner quelques noms. Ruffier, qui est toujours là, Loïc Perrin qui est là. Subotic qui est resté, Wabi Kazé qui vient d'arriver, Mvila qui est toujours là.
Et qui a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2022, Mvila.
Arnaud Nordin, Selnanès qui est toujours là. Devant, ils ont quand même Béric qui est toujours là.
De partir lui.
Pour l'instant qui est toujours là. Johnny Loris qui peut peut-être se révéler, qui fut très bon à Dijon.
Ouais.
Et même voire excellent, et qui a eu du mal sur sa première année d'adaptation, aussi changement de club avec un changement d'institution, on va dire que Dijon est quand même un peu plus petit au niveau institutionnel que Saint-Etienne à mon avis, donc difficile pour lui la première saison. Il a été prêté, là il revient, j'ai vu qu'il revenait bien en forme, c'est un très bon joueur, il va vite, il peut leur rendre service. Amouma qui est toujours là, est un âne. Donc sur tout ça, sur tous ces joueurs là sur cet effectif, je vois pas pourquoi. Sur l'effectif marseillais, je pense qu'ils ont rien à envier.
Quand même, il y a des champions du monde, il y a des internationaux.
On va parler des champions du monde qui sont, ils sont récemment champions du monde.
Oui, oui, il y a des internationaux quand même.
Arrête,
Sammy,
c'est incomparable.
Non, moi, je pense. Pourquoi? Attends, je te donne mon avis. Attends, laisse-moi finir.
Adil Rami, c'est incomparable.
Donc pour toi, Adil Rami, c'est plus fort que Subotic, spécialement.
Je te donne mon avis
au niveau de l'effectif.
L'effectif est plus fourni à Marseille qu'à Saint-Etienne.
Pour moi, laisse-moi finir, ces joueurs-là qui sont quand même expérimentés en Ligue 1, comme Romain Amouma, comme Perrin, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait combien de temps que ce groupe évolue ensemble? Là, ils ont à la tête un Jean-Louis Gasset extrêmement connaisseur de la Ligue 1.
Ça, c'est vrai.
Il sait sublimer ses joueurs. Il sait les rendre meilleurs qu'ils ne sont à tous les points de vue. partout où il est passé, il a réussi.
Mais ça, t'as raison.
Après, c'est pour ça que je te dis, ce groupe peut prendre conscience qu'ils ont des qualités, qu'ils ont suffisamment d'expérience maintenant, en 2018, pour aller peut-être titiller. Attention, titiller, c'est cadre de Ligue 1.
Sur ça, je te rejoins. C'est juste. Comparaison avec Marseille, je trouve que c'était un.
Non, mais quand je te parle de Marseille, bien sûr que Marseille a un plus bel effectif. Marseille a plus de moyens aussi. Et les joueurs vont plus facilement à Marseille qu'à Saint-Etienne, on est d'accord. Après, sur le point de vue effectif, c'est ça, c'est le groupe en lui-même. Je te parle pas des joueurs, un tel et un tel, sont plus forts. Non, je te parlais juste au niveau effectif. Ils ont de très bons joueurs aussi. Et je pense qu'au bout d'un moment, ces joueurs-là peuvent prendre conscience qu'avec le public qu'ils ont Saint-Etienne, le centre de formation qui fournit encore quelques joueurs. Je pense que si ça arrive comme on en parlait tout à l'heure, Monsieur Gasset a tapé du poing sur la table pour avoir ses recrues, c'est pourquoi il a besoin de ses recrues aussi.
Et ben justement, puisque tu en parles, on va prendre des nouvelles de Saint-Etienne directement à la source, à Saint-Etienne, même avec Timothée Mémon, le régional de l'étape. Salut Timothée.
Salut à tous.
Salut. Alors, tu vas nous raconter un petit peu cette journée particulière pour Saint-Etienne et notamment pour Jean-Louis Gasset. Il avait demandé quand même au président de tenir leurs engagements sur le mercato. Est-ce qu'il a été écouté? Est-ce qu'il est rassuré ce soir?
Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi tout à fait le feuilleton, ce qui s'est passé, c'est que après le match amical face à Amiens, un but partout de vendredi dernier, Jean-Louis Gasset a pointé du doigt le fait que lorsqu'il avait accepté de prolonger, on lui avait donné des garanties et que pour le moment, avec finalement une seule recrue, termes qu'il a choisi, en réalité, Saint-Etienne a recruté deux joueurs, Wahbi Khadri et Mathieu Debuchy, qui en fait avait signé 6 mois et qu'il fallait donc prolonger, c'était pas une chose acquise à la fin du dernier championnat, et que la Saint-Etienne avait perdu 14 joueurs, alors parmi lesquels il y a des jeunes sur lesquels le club ne comptait pas forcément, mais cela fait un déséquilibre très clair. Alors il a rencontré aujourd'hui à la mi-journée Roland Romeillet lors d'une rencontre qui s'est voulue très cordiale entre les deux hommes, simplement pour rappeler l'urgence et surtout les conditions qu'il avait mis en place, c'est-à-dire que Jean-Louis Gasset voulait un effectif compétitif, non pas à la fin du mercato, mais au début du championnat. Ce qui fait quand même une très nette différence, parce que Jean-Louis Gasset a bien regardé le calendrier et il sait très bien qu'au mois d'août, la Saint-Etienne a possibilité de prendre des points et de se mettre peut-être justement dans le bon wagon dont parlait Samy il y a quelques instants. Alors effectivement, ils ont discuté, l'urgence absolue pour Jean-Louis Gasset, c'est un défenseur central. Pourquoi ? Parce que la paire qui devrait débuter le championnat, c'est Perrin-Subotic. Ce sont deux joueurs d'expérience, des joueurs qui sont aussi parfois sujet à la blessure, des joueurs qui peuvent être suspendus, ça arrive. Et derrière, le choix est limité. Léo Lacroix ne donne pas satisfaction sur les matchs amicaux, c'est insuffisant. Il y a donc une véritable urgence à prendre un défenseur central. Et puis, Jean-Louis Gasset voudrait deux joueurs au profil technique, des joueurs offensifs. On pense évidemment à Rémi Cabella, qui avait fait une bonne pige d'un an à Saint-Etienne, où il avait été apprécié par le public, où lui-même avait d'ailleurs apprécié aussi l'ambiance du club. On aime pourquoi pas le faire revenir. On parle aussi d'un certain Marcelo Trotta. C'est un joueur qui évolue à Croton cette saison, qui est prêté par Sassuolo à Croton, qui appartient à Sassuolo, qui a marqué 7 buts et 4 passes décisives en Serie A la saison dernière. Bref, on cherche des joueurs techniques, mais encore une fois, l'urgence, on va dire, d'ici au début du championnat, pour Jean-Louis Gasset, c'est de trouver un défenseur central. Il a été écouté, entendu par ses dirigeants, qui ont peut-être aussi d'autres chats à fouetter en ce moment, mais qui doivent se concentrer peut-être sur l'urgence du moment, à savoir et bien recruter et surtout étoffer cet effectif, parce que actuellement Jean-Louis Gasset l'a pointé du doigt aussi. Il estime avoir dans son effectif 13 joueurs expérimentés, des professionnels expérimentés. Il en veut 16, donc il en manque 3. À ces 16 joueurs-là, il ajoutera alors des jeunes issus du centre de formation, sur lesquels il a d'ailleurs beaucoup compté sur les matchs amicaux, avec un certain succès pour quelques-uns d'entre eux.
D'accord Timothée, merci beaucoup pour toutes ces précisions qui apportent un petit peu de précision, justement, sur ce que vient de dire Samy Traoré. Jonathan, toi, t'as envie de répondre peut-être à Samy que Saint-Etienne européen, c'est peut-être un peu tôt.
Non, moi je suis d'accord avec le fond de l'avis de Samy. Bon, évidemment, je crois que c'est comparer les deux évêques sur Marseille, c'est une grosse sottise.
Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas vraiment ce qu'il a dit.
Plus au Lyonnais, peut-être, si tu veux, tu vois, le Lyonnais, il n'y a pas trop de noms ronflants. Non, je trouve pas qu'il y a des noms ronflants.
Tu rigoles.
Moi, je trouve pas qu'il y a des noms ronflants.
Justement, ça me permet d'embrayer sur ce qui manque à Saint-Etienne pour l'instant pour moi. C'est que c'est des joueurs qui vont être vraiment des joueurs de classe. C'est-à-dire un joueur un peu étendard, un joueur qui va faire la différence. Ils ont des très bons joueurs. Ils ont Subotić derrière avec Loïc Perrin. Ils ont Mvila qui a fait beaucoup de bien au milieu. Mais je pense qu'il leur manque encore un grand nom, et je pense notamment au poste d'avant-centre. Alors Johnny semble montrer quelques dispositions lors des matchs amicaux. Mais je pense que si Saint-Étienne doit passer un cap, il leur faut un avant-centre qui mette la quinzaine de buts par saison. Et je pense que outre le fait que derrière en défense centrale ils sont trois, et la croix on a vu ce que ça donnait, il y a encore des joueurs.
C'est la croix et la bannière.
Voilà, exactement. Il y a encore des joueurs qui à mon sens ne sont pas au niveau de ce que Saint-Étienne veut être cette saison. Je pense à Mbengue, à Paloma. Je pense que c'est des joueurs dont Saint-Étienne doit se séparer. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur le mercato. Et j'ajouterais juste une chose par rapport à la liste de bons joueurs que Samy a cité. Il y en a un que j'attends beaucoup cette saison, c'est le petit Diousse, qui l'année dernière est arrivé d'Italie avec une très belle réputation, qui a fait quelques matchs de très très bonne facture, mais qui a après un petit à petit disparu du groupe. Et j'attends de le voir avec une saison de Ligue 1 dans les pattes.
Bah, 21h41 hein, sur RMC BFM Sport. On parle de Saint-Etienne et justement Romain est avec nous au 32-16. Salut Romain.
Bonsoir à tous.
Supporter stéphanois, qu'est-ce que tu penses toi de ce que nous a dit Samy Traoré, qui est plutôt confiant pour les Verts cette saison?
Non, ça va être à eux de...
Moi je suis plutôt confiant pour le top 6. Après, pour Ligue des Champions, je pense que ça va être un peu difficile. Après, je pense que nous, on a l'effectif pour pouvoir jouer un peu plus haut, et je rejoins la personne qui disait qu'il va nous manquer vraiment un numéro 9, parce que pour moi
Jonathan McCarty, tu ne le connais pas.
Voilà, Jonathan, mais j'entendais pas trop du coup.
Pardon.
Et du coup, vraiment je pense qu'il va nous manquer un numéro 9 de classe, parce que je pense que Johnny il est pas du tout, et vous verrez que l'avenir me donnera raison, j'en suis quasiment sûr.
C'est par pas contre, la chance touriste, disons.
Ça va dépendre aussi de Marseille, Monaco et Lyon, leurs débuts de saison peuvent être tronqués parce que leurs préparations elles sont vraiment axées sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa, et du coup nous on est libérés de ce poids là si on va pas trop loin dans une des deux coupes, on peut faire la différence. J'aime beaucoup Gasset, je pense que vraiment c'est la personne qu'il faut à Saint-Té, et c'est vraiment bien, et je pense que si on a Cabella en plus, là par contre on va commencer à faire peur à beaucoup de monde.
C'est ce genre de joueur qui te manque, c'est un joueur dont tu sais qu'il va faire la différence.
Marseille, ils veulent pas nous le vendre par peur.
Si,
ils veulent, mais il y a une discussion entamée, après il y a des prix.
Le truc c'est le prix, Marseille on veut 10. Entre 8 et 10.
J'ai lu 8 aujourd'hui, que Romeillet on connaît, c'est une passe, il veut jamais lâcher le pognon. Ça, on connaît tous, de toute façon. Mais j'ai peur que Marseille, il recule un peu, parce que si on leur fait trop peur...
Il va partir. En plus, il est pas dans les plans de Rudy Garcia. Il va partir.
Oh, ça, je sais pas, parce qu'il a joué en amical. Il a été bon.
C'est normal qu'il ait joué en amical. La seule fois qu'il a joué à Marseille, il a été bon de toute façon en général.
Il est dans la balance. Balotelli aussi.
Oui, il y a Nice qui est intéressé intéressé par le profil de Cabella.
Ils préféreront peut-être l'envoyer à Nice, où ça renforcera moins une équipe qui est susceptible d'aller les embêter que nous.
Je pense pas que ce soit vraiment.
Je pense que ça peut y jouer. Après, on a si on prend 9 points au mois d'août, on prendra le bon wagon, et puis c'est tout. Hein.
Merci. Merci en tout cas d'être passé par l'after.
Mais j'y crois.
Et à bientôt et bon courage à l'AS Saint-Etienne. Voilà, on revient dans un instant dans l'after. Évidemment, on parlera des Bleus. D'ailleurs, avec ton avis tranché, Jonathan, sur l'équipe de France, sur Didier Deschamps. Deschamps, est-ce qu'il va devoir renouveler les champions du monde? Il est fou, Jonathan. Il va nous en parler dans un instant. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio. Et puis on fera un détour également par Brest, où Metz mène pour l'instant à la mi-temps 1-0. À Brest, c'est la Ligue 2, la première journée, c'est le dernier match. A tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show. L'after foot, François Pinet.
C'est reparti pour l'after jusqu'à 23h. À 22h, restez bien avec nous parce qu'on reviendra sur la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Atlético Madrid.
Mais oui.
Alors on va pas débriefer en long, en large, en travers cette rencontre. Mais on va parler du système tactique de Thomas Tuchel, le 3-5-2. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pensez que le PSG serait parfait dans ce schéma? Cette semaine, dans l'after, on vous fait gagner un jeu. Voilà, nous vous offrons un Subutéo. Et c'est pas n'importe quel Subutéo. Pour ceux qui connaissent, voilà, je vous le montre bien sur les FM Sport. C'est la réédition de la finale France-Brésil 98. Voilà, avec les petites figurines aux couleurs des Français et des Brésiliens.
Il est beau, hein.
Voilà, pour remporter cette boîte Subutéo, vous envoyez After au 7-32-16. After au 7-32-16. Et il y aura un tirage au sort en fin de semaine. La vie tranchée de Jonathan McCarty. C'est parti, jingle.
Je vais faire un vœu à la Jonathan McCarty, mais je souhaite que tout le monde se maintienne.
C'était un peu Miss France, tu vois, un soir avec Nico, mais Nico c'est un vil personnage, on sait.
Alors pour toi, Jonathan, il faut du renouvellement. J'arrive pas à le dire tellement je crois pas.
Tellement c'est choquant.
Il faut renouveler. Il faut du renouvellement dans chez les champions du monde.
C'est pas vraiment le ce que c'est je veux ça. Dire en fait. Non. D'accord. Ce que je pense c'est que Deschamps va renouveler l'équipe de France.
Bah c'est un peu tout. C'est un peu ce que tu veux dire.
Non, ça veut pas dire qu'il faut. Ça veut dire que je pense que Deschamps va le faire. Après, est-ce que je le veux, c'est autre chose. Le fait de vouloir et ce qu'on veut et ce qu'on constate. Non, en fait, c'est parce que je vous parle de ça parce que. On connaît comment Didier Deschamps pense. Après le doublé réalisé avec l'OM en 2009-2010, Deschamps, donc pour mettre un peu la pression sur le binôme à Nicolas Brune, peut-être, mais avait dit bah une de ses philosophies, un des piliers sur lequel il compte dans son management, c'est que quand une équipe gagne, pour continuer à gagner, il faut la renouveler à 30%. Et on a vu qu'à Marseille, c'est ce qui s'est passé. On a vu aussi qu'à chaque fois qu'il a été dans un club et où ça a bien marché une saison, il y a eu des forts remaniements après. On peut d'ailleurs le constater, hein, quand on compare en fait le groupe de l'équipe de France entre 2016 et 2018, ce n'est pas moins de 14 joueurs qui ont changé. Okay. Entre une équipe qui est quand même finaliste de l'Euro, où ça se joue à rien, tu perds la finale sur un poteau d'André-Pierre Gignac et un but de Chanceux Dédère, tu changes quand même 14 joueurs. Alors oui, c'est vrai que les bleus qu'on a là, bah, nos champions du monde, ils sont jeunes. Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dembélé, c'est tous des joueurs qui, en 2020, seront soit dans la force de l'âge, soit seront toujours des jeunes joueurs, mais qui ont eu l'expérience de cette Coupe du Monde là. Mais, quand on regarde bien le groupe, il y a quand même des joueurs qui commencent à prendre de l'âge. Matuidi, Giroud, Loris, ils auront 33 ans. Steve Mandanda, il en aura 35. Adil Rami, lui, a d'ores et déjà annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Alors même si je m'attends pas à un renouvellement aussi important qu'entre 2016 et 2018, en connaissant la philosophie de Deschamps et en regardant cette structure d'équipe, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des places à prendre. Et c'est là, en fait, le but de mon avis tranché, c'est de voir, en fait, un petit peu quels joueurs peuvent prétendre à l'équipe de France et quelle importance cette intersaison à 2 ans de l'Euro a. Alors quand on pourrait citer une liste de joueurs qui ont leur carte à jouer, ceux qui n'ont pas confirmé depuis 2016. On pense à Kingsley Coman et Anthony Martial. Si en 2016, on nous avait dit que Coman et Martial auraient disparu des radars de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, on l'aurait pas cru. Mais c'est quand même des joueurs qui ont des qualités, qui ont, je pense, leur carte à jouer. On peut citer les joueurs qui, eux, ont loupé le coche pour diverses raisons. Alors évidemment, le gâchis Adrien Rabiot, qui a totalement sa place en équipe de France. On peut penser à Alexandre Lacazette. On peut penser à Kurt Zouma, qui présente l'avantage d'être droitier. Et on sait que Deschamps aime bien avoir un défenseur central gaucher, un défenseur central droitier. On a beaucoup de gauchers de talent, Clément Lenglet, Laporte, Lucas Hernandez, mais les droitiers, on en a beaucoup moins. Et donc, on peut ajouter aussi à ça que, outre Rami qui a pris sa retraite internationale, Koscielny, le droitier, ne rajeunit pas. On peut aussi répertorier des joueurs qui pourront nourrir des espoirs s'ils confirment leur potentiel. Évidemment, en tête de file, alors je pense que ça sera la future rockstar de l'équipe de France, mais Oussem Aouar, Tanguy Ndombele, Morgan Sanson, Clément Lenglet, Aymeric Laporte, Fernand Mendy, Lecomte, Lafont pour le poste de gardien de but. Il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent, s'ils continuent leur progression, intégrer cette équipe de France. Il y a aussi ceux qui doivent impulser un nouvel élan à leur carrière. S'ils veulent pouvoir prétendre à quelque chose, Anthony Martial, il va pas falloir qu'il continue à s'empêtrer à Manchester United. Je pense aussi à Théo Hernandez qui a sa carte à jouer, mais il faut qu'il parte du Real Madrid, il faut qu'il joue, il faut qu'il gagne du temps de jeu parce que c'est un très bon latéral. Et enfin, je pense aussi à des joueurs qui doivent passer à la vitesse supérieure s'ils veulent avoir leur carte à jouer du fait notamment de la pauvreté qu'on a à certains postes. Je pense au poste de numéro 9, on n'est quand même pas forcément pourvu. Je pense que quelqu'un comme Sébastien Haller et Moussa Dembélé, ils font des bons matchs, mais ils jouent dans des clubs qui n'ont peut-être pas assez de visibilité. Et donc d'une manière générale, moi je pense que cette intersaison, elle est essentielle pour ces joueurs parce que la liste que j'ai fait, elle est pas exhaustive, hein. Il y a encore d'autres joueurs qu'on pourrait nous citer, mais je pense que c'est important pour tous ces joueurs-là de bien gérer leur choix de carrière maintenant s'ils veulent prétendre au bleu, parce que c'est pas l'année prochaine quand tu seras à une saison du mondial qu'il faut penser à changer de club ou quoi. Je pense que c'est maintenant que tu fais le changement parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, blessure, adaptation à ton nouveau club, etc. L'exemple type pour moi, c'est Alexandre Lacazette. Lacazette, il est à Arsenal, c'est un très bon club, mais est-ce qu'il va jouer avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang depuis l'année dernière? Est-ce que lui devrait pas penser à son temps de jeu? On sait qu'il y a une place à prendre au poste de numéro 9, et est-ce que ça serait pas dans son intérêt d'aller voir ailleurs? De même, j'exhorte certains joueurs qui auraient encore des aspirations internationales à revenir chez nous en Ligue 1, là où il y a de la visibilité, elle est quand même plus importante. Regardez Mathieu Debuchy, il a quand même fini dans la liste des réservistes avec 6 bons mois en Ligue 1. En début de la saison dernière, si on nous avait dit que Debuchy pourrait prétendre à l'équipe de France, on aurait bien rigolé. Donc je pense quand même que la Ligue 1 a cet effet de miroir grossissant, et je pense que des joueurs comme Mamadou Sakho, Kurt Zouma, même Morgan Schneiderlin, c'est des joueurs qui auraient tout intérêt à revenir en France. Pareil pour Moussa Dembélé ou pour Sébastien Haller, c'est bien Francfort ou le Celtic, mais je pense que jouer dans un bon club de Ligue 1, ça leur apporterait une exposition beaucoup plus importante et qui pourrait avoir augmenté leur chance d'intégrer l'équipe de France. J'exhorte aussi les dirigeants des clubs de Ligue 1 qui doivent surfer sur cette victoire des Bleus pour dire, eh ben écoutez, vous voyez, il y a une belle histoire qui s'est écrite en équipe de France. Regardez ce qui s'est passé par exemple avec Mathieu Debuchy. Revenez chez nous. Ça nous fera du bien à la Ligue 1, ça fera du bien à nos clubs et ça fera du bien à ces joueurs. Donc à mon avis, je pense que vraiment Deschamps, par la force des choses, par l'âge de certains joueurs, il va renouveler un petit peu son équipe. Je pense qu'aussi c'est dans sa philosophie de vouloir renouveler ce groupe qui a gagné. Peut-être plus les remplaçants, mais il y aura quand même des places à prendre. Et j'exhorte vraiment à la fois donc les dirigeants de nos clubs et à la fois les joueurs à revenir en Ligue 1. Il faut surfer sur cette vague victorieuse en Coupe du Monde. Et je pense que ces joueurs-là qui peuvent prétendre à l'équipe de France de revenir en Ligue 1, ça serait une dynamique qui serait pas gagnant-gagnant, mais qui serait triplement gagnante. Gagnante pour les joueurs, qui donc se créerait la possibilité de revenir, de connaître l'équipe de France, gagnante pour les clubs qui se renforceraient de très bons joueurs et gagnante pour le niveau global de notre championnat. Et si je vois là l'externalité positive de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, je pense que ça peut en être une très belle.
L'externalité positive. Je viens de noter ce dernier mot.
C'est compréhensible, arrête.
Pas facile. Non mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a sans doute besoin de renouvellement. Une équipe qui gagne, le plus important c'est d'avoir toujours des gagneurs, d'avoir toujours faim, Samy, et je pense que le renouvellement est essentiel dans une équipe même championne du monde.
Non mais de toute façon ça le sert automatiquement vu l'âge de certains.
Il n'y en a pas beaucoup qui sont âgés. Il les a cités. Il y a effectivement Loris, mais c'est un gardien qui peut encore être au niveau dans 2 ans, à 33 ans.
Pour l'Euro dans 2 ans.
Il y a Matuidi et Giroud.
Pour l'Euro dans 2 ans, puis la Coupe du Monde dans 4 ans. Ça va faire quand même 6 ans de plus. Ça tape quand même. Donc au bout d'un moment, je pense que Rami a pris la bonne décision. Mandanda, ça va pas tarder non plus.
Il y aura 35 ans.
Ce que disait Joe a totalement raison. Il faut qu'ils se tiennent prêts, la relève derrière. Et la Elin, de toute façon, quoi qu'il en soit, de nos jours, est vachement exposée. Il y a des joueurs comme Neymar qui sont venus, il y a Mbappé qui a éclos, donc ça donne envie aux autres aussi de venir.
Bien sûr.
Forcément.
21h55 sur RMC et sur BFM Sport dans l'after. On va prendre Jean-Luc au 32-16. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir à tous.
Alors, je vais réagir justement à l'avis tranché de Jonathan. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce qu'il faut renouveler cette équipe de France? Est-ce qu'il faut? Attention. Est-ce qu'il va y avoir du renouvellement?
Oui, moi je suis en partie d'accord. Les gens qu'il a cités, pour la plupart, à part Lloris et Matuidi, ils ont fait des remplaçants, donc effectivement, il n'y aura pas de raison qu'ils reviennent. Par contre, moi je voulais dire quelque chose par rapport à Didier Deschamps, parce que c'est quand même... On a un vrai patron pour une fois en équipe de France, et quand on a un vrai patron, on sait qu'il prend des bonnes décisions. Et ça, il fallait faire confiance depuis le début. Deschamps, il est à l'école tapis qui renouvelait tout le temps 30% de l'effectif quand il était champion, donc effectivement, il est là-dedans. Mais par contre, la différence, à mon avis, qu'il y a fondamentale entre les renouvellements qu'il a pu faire quand il était à l'Olympique de Marseille et qu'il a été champion, et quand il est allé en finale de champion d'Europe, c'est que dans les deux cas, quand il est allé en finale de champion d'Europe, quand il a été champion avec l'OM, il savait très bien au fond de lui-même que dans les deux cas, il n'avait pas mérité d'aller au bout. C'est-à-dire que quand il a été champion avec l'OM, il savait très bien qu'il avait un bon effectif, mais pas un effectif qui était capable de gagner le championnat.
Jean-Luc, non. Il a, en fait, quand il est champion avec Marseille, on va se rappeler que c'est surtout Bordeaux qui s'effondre.
C'est Bordeaux qui perd le championnat.
Mais Marseille avait un effectif de malade mental.
Oui, avec Lucho González.
Lucho, Nyang, Souleymane Diarra.
Ils ont été chercher ce titre quand même, non?
C'est plus Bordeaux que c'est.
Bordeaux, ils se fondent. Tant pis pour eux s'ils n'ont pas supporté la pression.
Tu te rappelles pas ce qui s'est passé. C'est Laurent Blanc qui annonce son départ pour l'équipe de France. À partir de là, Bordeaux s'effondre.
Chacun ses histoires. Il faut les gagner les matchs quand même, messieurs.
Mais je pense que Deschamps, au fond de lui-même, il savait très bien qu'il n'avait pas un effectif pour renouveler la même performance et ni pour aller faire une belle campagne en Champions League. Et je pense qu'effectivement, malheureusement, à l'Euro, je suis désolé, l'équipe de l'Euro, elle était quand même largement plus faible que l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il y a des jeunes d'un grand talent. Il y a déjà un joueur exceptionnel, même s'il ne joue pas dans le club de Mérez, mais c'est Mbappé. Et donc, ça change tout. Ça change tout. Il a un potentiel de malade. Qui est en réserve, il a quand même, savoir qu'il a quand même deux latéraux qui ne sont pas les titulaires, qui ont été grandioses. Et il y en a deux qui sont au moins aussi bons, et il y en a peut-être d'autres qui arrivent.
Ouais,
il y a
Fernand Mendy, par exemple. Fernand Mendy aussi, s'il continue comme ça avec Lyon.
voilà, oui, par exemple, il y a aussi un avis, on ne sait jamais. Après, il a une charnière centrale comme on l'a.
Jean-Luc, non, sois sérieux.
D'ailleurs, tout à l'heure, t'as pas dit Maxime Lopez, j'ai eu peur que tu dises Maxime Lopez.
Non.
Tu l'as pas dit.
Voilà, mais j'adore, dit. Mais non.
Alors, moi, j'adore pas, donc c'est pour ça. Et une charnière centrale de folie, parce qu'aujourd'hui, Varane, Matuidi, là, ils ont gagné en confiance.
Umtiti.
Umtiti.
J'ai dit qui?
Matuidi.
Non, pardon, Umtiti. Donc, il a une charnière comme, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas des gens avec ce niveau de potentiel, avec ce potentiel. Moi, je me rappelle pas un potentiel comme ça en défense depuis l'équipe de 2000. Il a quand même un milieu de terrain, mais il peut mettre encore plein de monde. Nzonzi peut rentrer à tout moment, prendre la place de n'importe qui. C'est-à-dire, il peut être là. Ouais. Devant, c'est de la folie, à part le poste d'avant-centre. Moi, je pense franchement que même si lui, il a pas joué non plus dans le club de mes rêves, mais je pense qu'Alexandre Lacazette, il a son sa carte à jouer.
Il faut qu'il joue. Merci Jean-Luc. On a bien compris le message. Effectivement, François, il faut surfer sur la même vague très rapidement parce qu'on doit aller à Brest.
Le sens de mon avis, c'était vraiment ça. C'est vraiment, je veux que les dirigeants de Ligue 1 profitent de cette victoire du compris, monde pour aller vraiment les gens de Ligue 1.
Et ils t'écoutent. On va tout de suite faire un petit détour très rapide. Merci Jean-Luc. Pour vous retrouver Xavier Grimaud, Brest-Metz, où on en est?
C'est reparti depuis 11 minutes en deuxième période. Toujours 1-0 pour le FC Metz. Le buteur, c'est Ibrahima Niane. Et les actions les plus franches sont encore en faveur des Messins. 1-0 pour les hommes de Frédéric.
Merci Xavier, retour de l'after à 22h, on parlera du Paris Saint-Germain, de la stratégie en 3-5-2, est-ce que c'est la meilleure stratégie possible pour le PSG? On revient dans un instant avec Samy Traoré et Jonathan Wakardi. À tout de suite sur RMC et sur BFM Sport.
RMC, le super football show, l'after foot.